Rendez-vous avec la rédaction de l'Humanité sur Radio Orient. Comme chaque semaine, votre rendez-vous avec l'Humanité. Bonjour Patrick Le Yarrick.
Bonjour.
Votre édito dans l'Humanité est sur votre blog patrickleyarrick.fr. Les drapeaux agités du candidat président, vous revenez sur la présidence française de l'Union européenne et vous estimez que le chef de l'État français joue sur les mots pour faire croire qu'il est devenu le président de l'Europe.
Oui, il se prend pour le grand conducteur de l'Union européenne, mais en vérité, il va présider de temps en temps le Conseil des ministres. Et c'est le président en exercice qui préside le Conseil européen lui-même. Donc la France va avoir un rôle de coordination des politiques, mais de politiques qui sont déjà engagées par les précédentes présidences et qui vont être poursuivies après ceci. Par exemple, il y a une discussion sur le revenu minimum, quelque chose que nous réclamons depuis de nombreuses années. Finalement, la Commission a déposé un projet de directive qui a été débattu au Parlement européen et qui propose effectivement un système de revenu minimum, mais évidemment qui n'est pas en train de révolutionner les rémunérations des travailleurs de l'Union européenne. Donc lui, il s'approprie ça sans jamais dire que c'est déjà en discussion, ça a déjà été discuté au Conseil, c'est une directive de la Commission désormais, et c'est en débat, voire en quasi-vote au Parlement européen. Donc, il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas. La vérité, c'est qu'il veut faire sa campagne électorale en faisant croire à tout le monde qu'il est le chef de l'Europe.
Vous dites qu'il utilise l'agenda européen dans sa quête de réélection.
Oui, c'est ça d'ailleurs, il va être proposé en France. Vous allez avoir un sommet à Brest sur la défense européenne, vous allez ensuite avoir un sommet à Toulouse sur l'aéronautique européenne, vous allez en avoir un à Angers autour de la culture, le 17 je crois il prend la parole au Parlement européen, donc tout l'agenda européen est mis au service de la campagne présidentielle de M. Macron. Parce que s'il était président de l'Europe, comme il le dit si bien, ben, il ferait une réunion, par exemple, sur l'aéronautique à Berlin, il ferait une réunion sur la culture à Venise, par exemple. Là, il serait un Européen. Mais là, on voit bien que la stratégie, elle est tout autre. D'ailleurs, les Allemands, je crois, puis un autre pays, ont déjà été confrontés à la question de leur présidence alors qu'ils avaient des élections générales. Ils ont toujours demandé le report de la présidence, ce que n'a pas fait le président de la République française, parce que, évidemment, ceci confirme ce que je dis.
Mais vous estimez que la présidence française pourrait être utile au monde entier si elle prenait une initiative marquante en faveur de la levée des brevets sur les vaccins et les médicaments, cela bien entendu dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.
Ah oui, tout à fait. Si on allait ensemble, si M. Macron ou M. Charles Michel, avec la présidente de la Commission européenne et du président du Parlement européen, allaient ensemble à l'Organisation mondiale du commerce pour dire qu'il y a nécessité maintenant de lever les brevets et qu'il faut faire obtempérer les grandes firmes pharmaceutiques, ce serait un acte politique. Qui d'ailleurs serait soutenu, parce qu'il est déjà soutenu, par l'Organisation mondiale de la santé cette fois. Donc il y aurait bien des initiatives politiques utiles à prendre, mais on voit bien que ce n'est pas mis à l'ordre du jour.
Et vous revenez également sur la politique migratoire de l'Union européenne dans votre éditorial, Patrick Le Yarrick.
Oui, vous avez vu leur formule à eux, c'est toujours le faire face aux défis migratoires. Comme si les enjeux pour des gens qui sont contraints de fuir la misère, les guerres, le terrorisme, étaient un problème de défi. Ils préféraient vivre là où ils sont nés et là où ils souhaiteraient vivre auprès de leur famille. Malheureusement, ils sont contraints de s'échapper parce que souvent, ils s'échappent à la mort ou à la famine ou à la prison. Or, ce qui est déjà... Là, c'est pareil, ce n'est pas une invention. Déjà, sur la table du Conseil, il y a un dispositif qui est la fermeture encore plus étanche des frontières, la mise en alerte permanente du dispositif qu'on appelle Frontex, qui sert à empêcher les gens de rentrer, puis surtout à les refouler. Ce qui provoque ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les plus de 2 000, 2 500 morts, réfugiés morts dans la Méditerranée. C'est plutôt inhumain que autre chose.
Et vous plaidez, à la fin de votre édito, pour une union des nations et des peuples souverains, associés et libres. Comment cela pourrait se traduire?
C'est une autre conception de la construction européenne. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une construction européenne telle qu'elle est aujourd'hui à 27 ou 28, mais pour avancer un certain nombre de dossiers, nous sommes pour une Europe, la fabrication d'une Europe, qui sur tel ou tel sujet serait à géométrie choisie. Par exemple, si on décidait à quelques-uns aujourd'hui, je ne sais pas, Espagne, Italie, Allemagne peut-être, de construire un pôle public mêlant des entreprises privées et publiques du médicament, eh bien, ceci devrait pouvoir se faire. Pas seulement à attendre l'approbation des 27. On sait qu'on ne l'aura jamais, donc les dossiers n'avancent pas. Si un certain nombre de pays décidaient effectivement de monter les salaires, à trouver pour aider les Italiens, pour aider les Espagnols, pour aider les Portugais, bien plus élevés qu'ils sont, et ceci aiderait d'autres, les Roumains, les Hongrois, les Bulgares, eh bien on pourrait le faire, au lieu d'avoir des décisions uniformes qui sont toujours le moins-disant social. Or, c'est vers le mieux-disant social, environnemental, humain, qu'il faudrait aller. Donc, ce que nous défendons, c'est une autre construction européenne qui respecte les nations, qui respecte les peuples et qui permet de débattre tant que de besoin jusqu'à obtenir un accord à quelques-uns, puis généraliser cet accord à ceux qui veulent y venir. Par exemple, on a une expérience aujourd'hui sur les chemins de fer. Il y a des pays qui sont en train de renationaliser leurs chemins de fer. Nous, on est en train d'ouvrir à la concurrence. Eh bien, s'il y avait un débat sérieux là-dessus, et si on écoutait les parlements nationaux, les organisations syndicales, les gouvernements, évidemment, voire même les entreprises de chemin de fer, eh bien, on ne s'engagerait pas, nous, en France, dans cette ouverture à la concurrence telle qu'on le fait, et cette quasi-privatisation de notre SNCF à terme. On ferait tout autre chose, parce que l'efficacité nécessite de coopérer à plusieurs, mais sur des bases d'intérêt général, sur des bases publiques.
Merci, Patrick Leyarrick.
Merci bien.
Votre édito dans l'Humanité sur votre blog patrickleyarrick.fr, les drapeaux agités du candidat président.
C'était Rendez-vous avec la rédaction de l'Humanité Dimanche sur Radio Orient.